C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
La forêt brûle dans l'ouest des États-Unis et au Brésil, pendant que les capitales africaines souffrent d'inondations. La science du climat est désormais claire sur un point. Le dérèglement climatique a et va avoir de plus en plus d'impact. Il faut donc évidemment baisser les émissions de gaz à effet de serre pour en limiter l'ampleur. Mais il faut aussi en parallèle anticiper ses conséquences pour s'adapter. Anticiper pour s'adapter, c'est justement le thème du colloque organisé hier dans les locaux de l'Université de la Sorbonne à Paris par le Forum international de la météo et du climat. L'occasion d'installer notre studio juste à côté de l'auditorium et de recevoir quelques-uns des éminents intervenants.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Hervé Le Treut.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, professeur à la Sorbonne et président du comité scientifique du Forum international de la météo et du climat. Vous avez choisi cette année donc de vous intéresser à l'adaptation au dérèglement climatique. Comment est-ce que vous définiriez le principe de l'adaptation pour les auditeurs ?
On est dans une situation où l'évolution du climat fait qu'on a vraiment besoin de se protéger d'un certain nombre de situations qui sont nouvelles, plus intenses, plus récurrentes. Et c'est des choses qu'on doit faire justement par anticipation, parce qu'on a les informations pour essayer de... pour savoir qu'en fait, les choses vont revenir, alors avec une fréquence qu'on ne connaît pas bien. Mais on a besoin de se protéger de risques, d'aléas qui vont survenir. On ne sait pas exactement où ni quand, mais ils vont survenir. Et de manière de plus en plus forte et de manière de plus en plus pressante. Donc c'est ça qui définit l'adaptation. Le point qui est important dans cette conférence, c'est de montrer que c'est quand même un problème systémique. C'est avoir besoin de revoir des systèmes d'aménagement du territoire, des systèmes. L'adaptation passe souvent par des objets qui sont de grande dimension. Et c'est ça qui est le plus difficile à prendre en compte.
Alors, on va rentrer un peu dans le concret assez rapidement dans cette émission. Mais Alexandre Magnan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vous travaillez justement sur la vulnérabilité et l'adaptation. Alors, tous les pays sont concernés par l'adaptation, mais il y a des facteurs qui augmentent la vulnérabilité.
Oui, tout à fait. Pour prendre des exemples très, très, très simples, les modalités d'aménagement sur le territoire, on est plus ou moins près de la mer avec des densités, par exemple, de bâtiments plus ou moins fortes. Évidemment, ça génère une vulnérabilité face aux aléas climatiques qui est plus importante que s'il n'y a pas tous ces bâtiments, par exemple. Et il y a effectivement en parallèle des facteurs sociaux, des facteurs économiques, des facteurs culturels. C'est un sujet assez compliqué. Oui.
Et des facteurs géographiques aussi.
Et des facteurs géographiques.
Quels sont les pays les plus touchés en fait ?
Or, en général, dans les zones tropicales et polaires, c'est là qu'on observe des changements d'ampleur assez manifestes déjà aujourd'hui. Un peu plus que dans les zones tempérées, mais dans les zones tempérées, celles que nous on connaît bien, ça commence aussi à émerger assez fortement. Et quand on croise des facteurs climatiques assez importants avec des conditions sociales, économiques, par exemple de pays pauvres, c'est vrai que là on a une convergence de facteurs qui crée le risque et c'est dans ces zones-là qu'on s'inquiète beaucoup aujourd'hui.
Bonjour Luc Abadi.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur d'écologie à Sorbonne Université, directeur de l'Institut de la transition environnementale de la Sorbonne. Alors quand on parle de dérèglement climatique, on a tendance à ne pas parler forcément de biodiversité. Hein. Souvent, on sépare les deux. Or, pour vous, enfin, et pour beaucoup de chercheurs, c'est intimement lié.
C'est lié parce que d'abord, le changement climatique, en termes de facteurs explicatifs de la crise de la biodiversité, monte progressivement en puissance, même si aujourd'hui, on considère que c'est en fait le mode d'occupation du sol, et donc surtout l'agriculture, qui est le facteur numéro un, qui est à l'origine donc de la crise de la biodiversité. Mais l'autre aspect, notamment quand on parle d'adaptation, c'est que les organismes vivants, les écosystèmes, peuvent apparaître comme des outils pour l'adaptation, même pour la réduction du changement climatique, et d'une façon plus générale, vont exercer une rétroaction probablement sur le changement climatique. La biodiversité répond au changement climatique, mais elle contribue aussi, dans une certaine mesure, à l'évolution, finalement, de notre milieu de vie. Donc c'est à la fois un objet qui est impacté par le changement et qui joue un rôle dans le changement et qui va jouer un rôle majeur, je pense, dans l'adaptation.
Alors, on va en parler dans un instant. Alors, parmi les 50 pays les plus vulnérables au dérèglement climatique, je parle sous la surveillance d'Hervé Le Treut, 36 sont africains, c'est juste ?
La zone africaine est certainement, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais la zone africaine est une des zones les plus vulnérables pour beaucoup de raisons, qui sont à la fois des raisons géographiques. On est dans un domaine où le climat est difficile. En fait, c'est une région où il y a un réchauffement par le soleil qui est très fort. Il y a aussi des manifestations en termes de dynamique, des systèmes de vent, des systèmes qui font qu'on est dans un endroit particulièrement vulnérable déjà au niveau physique, je dirais. Et puis, au niveau socio-économique, il y a effectivement une difficulté d'une partie de l'Afrique à se développer, qui est constante aujourd'hui. Il y a toujours presque 1 milliard de personnes qui sont en situation très pauvre, et beaucoup d'entre eux en Afrique. Oui.
Alors, on a du mal à identifier ce qui sont les conséquences en fait, du dérèglement climatique et ce qui sont les conséquences de l'impact humain. Mais est-ce que la situation géographique aussi du continent africain le fragilise ? Je pense notamment, ce que disait Alexandre Magnan tout à l'heure, la zone intertropicale.
Oui, on a une zone qui est une zone où on a des systèmes atmosphériques qui peuvent être assez violents. Donc on a à la fois des régions où on peut avoir des cyclones, des tempêtes, des manifestations très brutales côté chaud, et puis on peut avoir aussi des situations de sécheresse très importantes, et surtout des situations très, très durables aussi. On a eu des canicules, on a eu des sécheresses en tous les pays africains qui ont pu être désastreuses et sur des durées extrêmement longues, de plusieurs décennies quelquefois.
En ce moment, on a des inondations. Alors, le Bénin fait partie des pays impactés, notamment sur sa zone côtière, comme nous l'explique Martin Pépin-Aina. Il est directeur général de l'environnement et du climat du Bénin.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Le Bénin, effectivement, fait partie des pays les plus vulnérables, surtout au niveau de la côte, où nous avons une montée de la mer, donc de l'érosion, des grandes tempêtes, avec la disparition donc de certains villages, disparition donc de certaines côtes, de certaines plages, des routes qui, il y a quelques années, existaient, se sont retrouvées tout simplement donc dans la mer. Et puis, en même temps, cette vulnérabilité n'est pas seulement due, donc, au fait des changements climatiques. Il y a toute la pression, donc, exercée, la pression anthropique exercée, donc, sur la côte, parce que le Bénin, très tôt, a connu un essor démographique assez poussé. Donc, la forte pression anthropique a amené, donc, à une érosion, donc, sans précédent, où aujourd'hui, on est pratiquement à une moyenne de 10 mètres, donc pas un, de surface érodée.
Et avec des conséquences surprenantes, par exemple, au sud du Bénin, donc le long de la côte, il y a des populations à la frontière avec le Togo qui vont peut-être être amenées à changer de pays.
Expliquez-nous ça. Tout à fait, ce qui pose un problème géopolitique et stratégique, parce qu'il y a des populations qui, aujourd'hui, sont béninois, et qui, petit à petit, avec la disparition de la langue de terre entre l'océan et puis donc le petit lac qui se situe entre le Togo et le Bénin, donc cette population va se retrouver tout simplement dans du côté du Togo. Et donc les populations aujourd'hui crient au secours, demandent l'aide du gouvernement, mais le fait est que beaucoup déjà ont quitté les lieux. Donc le Bénin s'est engagé donc avec le Togo naturellement pour pouvoir renforcer donc cette langue de terre afin de permettre donc à cette population, autrement donc d'ici quelques années, cette population doit pouvoir quitter.
Et du coup les pays de la côte ouest africaine se sont organisés pour plans conjoints de lutte contre l'érosion.
Un plan conjoint, un programme que nous appelons aujourd'hui le programme WACA, West Africa Coastal Area, qui concerne le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, Sao Tomé, la Mauritanie. Donc, ils se sont entendus donc, avec la Banque mondiale pour écrire ce programme.
Alors, comment s'adapter face à une telle situation ? Je vous propose d'écouter la vision de Isabelle Niang, que nous avions reçue dans C'est pas du vent. Elle est climatologue et elle a coordonné le chapitre Afrique pour le 5e rapport du GIEC.
au lieu d'aller chercher à protéger avec ces quantités d'argent qui sont faramineuses, avec tout un ensemble de problèmes qui se posent au niveau des différents pays, sans approche régionale, moi, ma position, c'est de dire il faut reculer, il faut réaménager le territoire national. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut avoir des visions, je pense, à long terme. Et cesser d'avoir des visions à court terme, c'est-à-dire chercher à faire plaisir à telle ou telle partie de la population pour pouvoir se faire réélire à la prochaine élection. Je pense que c'est ça le problème qu'on a en Afrique.
Mais vous dites qu'il faut reculer, ça veut dire que toutes les capitales dont on a parlé tout à l'heure qui se trouvent sur le littoral ouest africain, il faut commencer d'ores et déjà à penser à les déplacer ?
C'est-à-dire, je considère qu'on a affaire à un phénomène qui est naturel et qui nécessite, qui est dans une situation de déséquilibre. Il faut que l'équilibre se réinstalle. Pour que l'équilibre se réinstalle, il faut qu'on s'en aille de la zone côtière, qu'on laisse les éléments reprendre pour rétablir un nouvel équilibre. Bon, ça, c'est ma position. On peut dire que les gens, les populations, etc., ils ne vont pas être prêts à partir. Tout ça dépend comment on voit l'aménagement du territoire.
Mais
si on continue à attirer les gens en zone côtière, on va investir de plus en plus les gens. Dès que vous investissez, ils commencent à investir dans les constructions, à monter les bâtiments, etc. Et donc, on a des problèmes qu'on ne va pas arriver à gérer au bout d'un certain temps.
Bonjour Christophe Buffet.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Adaptation à l'AFD, l'Agence française de développement, qui accompagne justement une quinzaine de pays et d'organisations régionales dans leur stratégie d'adaptation, notamment sur le continent africain. Vous entendez ce que disait Isabelle Niang, à l'instant, faudrait envisager un repli stratégique, comme on dit, c'est-à-dire quitter la côte ouest africaine, notamment dans le golfe de Guinée, parce que la mer monte et l'érosion grignote, aussi à cause des constructions que les hommes ont fait sur cette côte. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que précédemment, on envisageait que les enjeux d'atténuation des émissions étaient un enjeu global et qu'à contrario, l'adaptation était un enjeu local. Et
en fait, on Alors l'atténuation, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Tout à fait. Et on voit bien, en fait, au travers de ce témoignage et puis de ce que disait Hervé Le Truc précédemment, qu'en fait, on doit sortir de cet enjeu purement local pour changer d'échelle et avoir des actions d'adaptation à toutes les échelles. Donc à la fois à l'échelle très locale, par exemple, en inscrivant l'adaptation dans les plans de développement locaux, mais aussi à des échelles plus grandes, soit au niveau régional, avec des organisations régionales telles que la CDAO, par exemple, mais aussi au niveau de stratégie nationale. Et par exemple, au travers d'Adaptaction, ce projet de l'AFD que je conduis, nous accompagnons le Niger pour mieux intégrer l'adaptation dans les stratégies de développement agricole. Au travers, tout d'abord, d'analyse des impacts futurs sur la biomasse, sur l'agriculture, et puis en déclinant en fait ces impacts en stratégie nationale et en plan d'action qui comprend une centaine de mesures potentielles d'agriculture intelligente face au climat.
Voilà, donc il faut, là on est bien à anticiper pour s'adapter. Luc Abadi, l'agriculture, c'est un levier très fort où on peut lier justement limitation des émissions de gaz à effet de serre et adaptation aux conséquences du dérèglement climatique.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il est clair que la question agricole d'une part et la question énergétique de l'autre sont vraiment les deux clés et les deux causes de la crise environnementale. Alors quand on regarde aujourd'hui la situation de l'agriculture à l'échelon mondial, on a une contribution qui est forte aux émissions de gaz à effet de serre notamment, c'est de l'ordre de 20 ou 25%, quelque chose comme ça. Bon, c'est une situation qu'on observe dans beaucoup de pays, donc il y a une contribution au changement climatique, une dégradation des conditions environnementales. Mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que ces émissions de CO2, elles proviennent tout simplement de la dégradation du carbone organique qui est dans les sols. Or, ce carbone organique dans les sols, c'est la base de ce qu'on appelle la fertilité chimique des sols. Donc là, on a un double problème, c'est-à-dire qu'on a à la fois une contribution au changement et un appauvrissement de la qualité des sols, de la capacité productive de ces sols. Donc, en ce sens, tous les changements de pratiques qui peuvent aller vers une restauration de cette qualité des sols, là, pour le coup, comme on dit, sont des stratégies gagnant-gagnant. On peut reconstituer un potentiel productif important et faire de ces écosystèmes agricoles, et c'est pareil pour les forêts, des outils de séquestration du CO2, dans cette idée que le vivant va nous aider à limiter l'ampleur du changement climatique. C'est dans les accords de Paris, la séquestration biologique du carbone. Alors évidemment, après, il faut anticiper l'effet des changements climatiques et notamment des phases de sécheresse et des choses comme ça sur les modes d'agriculture, sur le choix des végétaux. Alors, ce n'est pas toujours évident de donner des conseils précis.
Non, ça dépend évidemment des lieux, mais par exemple, il y a ce fameux chantier de la Grande Muraille Verte, là, oui. Qui est de planter des arbres sur toute la largeur de l'Afrique, en gros du Sénégal au Soudan. Et là, c'est vrai qu'il y a des initiatives très intéressantes de plantation d'arbres locaux, qui sont des arbres qui font des fruits pour pouvoir créer de l'activité économique et qui permettent aussi d'enrichir les sols.
Absolument. Et ça fonctionne très très bien. C'est étonnant de voir à quelle vitesse un paysage peut être changé quand on conduit des opérations de réforestation. Alors il y a une petite condition quand même pour que ça marche bien, c'est quand même de limiter l'impact de l'herbivorie. Hein. La pression d'herbivorie peut être aussi... Donc,
herbivorie, les vaches, ça veut dire tous ces petits animaux qui vont venir brouter les jeunes pousses.
C'est ça. Mais ce qui est intéressant dans cette opération de la Grande Muraille Verte, c'est que ça donne finalement, ça illustre quelques principes de base. Qu'est-ce qu'on fait dans ces opérations ? En fait, on utilise un grand nombre d'espèces végétales, donc on mélange, donc ça veut dire qu'on joue sur la diversité des espèces. On utilise des espèces locales, parce que là, on peut faire l'hypothèse que dans la variation génétique au sein de chaque espèce, il y a une espèce de préadaptation à des variations possibles de l'environnement, parce qu'elles ont déjà eu lieu dans le passé. Et puis, évidemment, ces espèces font l'objet d'usages, donc il y a également une conséquence sociale. Donc ça illustre quoi ? Un point clé qui n'est pas toujours complètement compris, c'est que si on veut avoir des systèmes agricoles qui sont résilients par rapport au changement climatique, mais aussi par rapport aux maladies et autres, eh bien, il y a une action vraiment à développer, c'est essayons de maximiser la diversité biologique, que ce soit les espèces ou que ce soit la diversité génétique au sein des espèces cultivées, par exemple.
C'est ça l'adaptation, Hervé Lautrut ?
Oui, alors c'est une des manifestations de l'adaptation. Il y a beaucoup d'éléments qui font l'adaptation. Je vais peut-être en citer deux qui sont un peu différents. Le premier, c'est celui qui a été cité déjà, de l'anticipation du futur. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où on a toujours tendance à penser que le problème auquel on est confronté, c'est celui qu'on voit. On sait parfaitement, avec nos modèles, qu'en fait, le réchauffement de la planète des 20 prochaines années, il est inscrit par les émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu, qui se sont stockées dans l'atmosphère, et qu'on va vers des situations qui seront des situations plus graves, plus dangereuses que celles qu'on a connues jusqu'à présent. Ça, c'est vrai partout, c'est vrai chez nous, c'est vrai en Afrique, mais c'est effectivement plus marqué, les conséquences seront plus marquées dans les pays plus vulnérables. Donc là, je crois qu'il y a un élément qui est peut-être mal compris. Généralement, il y a souvent une certaine difficulté à agir avant d'avoir vu.
Ce que disait Isabelle Nian, il y a aussi les enjeux électoraux où en fait vous vous faites réélire pour 5 ans et c'est difficile de prendre des décisions pour dans 20, 30, 40 ans, même si la science frappe à votre porte.
L'autre point qui est justement, je pense, ce problème avec les élections, c'est-à-dire quand il y a des élections, c'est dans les pays, c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui sont appelés à voter, et donc il faut qu'ils soient formés. Et je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi à ces enjeux-là qui est majeur. Je crois qu'aujourd'hui, quand on fait des enquêtes dans tous les pays, y compris en France, sur comment ça fonctionne, les enjeux environnementaux, quels sont les points clés, comment est-ce qu'on peut aborder ces problèmes-là de manière réelle, au niveau des solutions, pas seulement au niveau de l'alerte. On a un discours sur l'alerte qui est un discours très rodé maintenant sur les risques du changement climatique. Mais comment est-ce qu'on se rentre dans un espace de solutions? C'est des choses qui sont beaucoup moins élaborées. Et l'adaptation, c'est vraiment ça. C'est d'arriver à construire un savoir sur les solutions. Et c'est vrai que ce savoir, il s'incarne un peu plus fortement, facilement, dans un territoire bien déterminé, qu'on connaît, où il y a un travail collectif sur les différentes dimensions. Parce que là aussi, je crois que ce qui est important, c'est que l'adaptation, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, avec le niveau de gaz à effet de serre qu'on a émis, va toujours être le résultat d'un arbitrage entre des solutions qui ne sont pas parfaites, ni l'une ni l'autre. On est obligé de faire des choix. Et ça repose le problème de la population et de la capacité à déterminer ces choix face au futur, en fait, face au futur.
Restez sur RFI, on se retrouve juste après une pause musicale en compagnie des Beatles. Rain. écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la nécessité d'anticiper pour s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique. C'est le thème du colloque qui s'est déroulé hier dans les locaux de l'Université de la Sorbonne à Paris. Un colloque organisé par le Forum international de la météo et du climat. Cette problématique de l'adaptation touche tous les pays, on l'a dit, la France n'est pas épargnée. Renaud Lagrave est vice-président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine dans le sud-ouest de la France, une région qui abrite, avec ses 720 km de littoral, la plus vaste façade maritime de la métropole française. C'est un formidable patrimoine, mais qui aujourd'hui est très vulnérable. Renaud Lagrave nous explique pourquoi.
Tout simplement parce que dans l'histoire de ce littoral, on a subi les assauts de l'océan, comme tous les autres d'ailleurs, et nous en particulier autour de la question de la submersion, notamment sur les côtes de Charente-Maritime, et puis au niveau de l'érosion sur toute la côte sableuse et rocheuse d'ailleurs de l'Aix-Aquitaine. On connaît bien l'aléa érosion, puisqu'on y travaille maintenant depuis une dizaine d'années. C'est le recul grosso modo d'une trentaine de mètres par an d'ici à 2050. On connaît maintenant beaucoup mieux l'aléa submersion et on sait aujourd'hui le nombre de territoires qui sont concernés, le nombre d'habitants qui sont concernés et c'est quand même des enjeux qui sont extrêmement importants.
Alors justement, je ne sais pas comment vous comptez, en kilomètres carrés, en nombre d'habitants, en quantité de logements ?
On compte en nombre d'habitants qui sont impactables, je dirais, par les questions de submersion. On est à 200 000 personnes sur la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, au niveau de l'érosion, comme je vous le disais, on est à peu près à une trentaine de mètres de recul en moyenne côte rocheuse, côte sableuse d'ici à 2050, ce qui veut dire pas loin de 6 000 logements qui sont menacés par l'érosion. Il y a, vous le comprenez bien, un enjeu qui est assez énorme, qui date pas d'aujourd'hui, hein, parce que pour le coup, nous, ça fait 10 ans qu'on a rendu public l'aléa érosion sur le territoire de l'Aquitaine et on sait d'ores et déjà ce qui va nous arriver. La question maintenant, c'est comment on anticipe et comment on travaille dans la durée.
Alors justement, vous êtes le président du groupement d'intérêt public du littoral aquitain qui impulse les politiques publiques pour répondre à ces problèmes. Quelle est votre stratégie ?
La stratégie, en fait, elle tient en quelques mots. On a d'abord adopté une stratégie régionale. Nous, de notre côté, on avait installé effectivement des stratégies locales qui tiennent en quatre mots, hein. On laisse faire, on entretient le cordon dunaire, on met en place des digues ou bien des épis, ou bien on relocalise les activités. Et on a activé finalement ces quatre solutions sur des stratégies locales, sur chaque territoire qui est menacé par l'érosion à l'échéance de 2040-2050. Eh bien, on a appliqué tout cela. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt pour pouvoir travailler, je dirais, dans la durée, pour anticiper. On connaît l'aléa érosion. On sait maintenant qu'on a des stratégies qui sont applicables et qui sont, pour le coup, financées, parce que à chaque fois, on pourrait parler d'argent, mais la vérité, c'est qu'elles sont financées grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Ce qui veut dire que maintenant, la question qui est devant nous, au-delà des stratégies qui ont été adoptées sur les territoires, en partenariat et en discussion d'ailleurs avec la population, c'est maintenant comment on se lance dans l'action et non plus dans je ne sais quel encore effet d'annonce.
Oui, parce que concrètement, ça veut dire qu'il faut que vous alliez voir des personnes et leur dire, voilà, d'ici quelques années, vous allez avoir les pieds dans l'eau, faut bouger, faut déménager, alors que ce soit des infrastructures touristiques, des personnes qui ont leur maison, enfin voilà, ça concerne des gens de façon très concrète. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ?
Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas leur proposer grand-chose. Hein. Quand on parle d'érosion dans ce pays, on vous tire par la manche en vous disant « mais vous n'êtes même pas capable de régler ce sujet ». Nous avons répondu collectivement à des appels à projets. On a fait je ne sais combien d'auditions auprès de parlementaires pour empiler les rapports. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des collectivités, des territoires où on a soit des particuliers, soit des biens commerciaux qui doivent être localisés. On ne peut rien faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les outils ni juridiques ni législatifs qui nous permettent d'aller voir effectivement les habitants ou bien une entreprise ou une collectivité territoriale en disant voilà comment on va faire. Ce qui fait que sur certains territoires, j'en prends un au hasard dans le département des Landes, on a trois commerces qui sont à relocaliser de manière assez urgente, eh bien on nous dit ah non, n'y touchez pas, vous n'avez pas le droit de les déménager. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est bloqué alors qu'on a une stratégie, elle est financée et qu'on sait où aller pour l'avenir.
Si je suis cynique, je vous dirais, vous attendez une catastrophe pour que ça bouge ?
C'est-à-dire que nous, non. Mais la vérité, c'est que on a travaillé sur cette stratégie régionale, sur des stratégies locales, avec beaucoup d'élus qui aujourd'hui parlent de relocalisation d'activités. C'est pas évident hein, pour un élu local de dire bah, on va relocaliser des activités. Ils le font. J'ai moi l'impression, par contre, que dans le niveau à l'étage au-dessus, on attend effectivement une catastrophe. Malheureusement, si demain les mêmes tempêtes que 2014 qu'on a subies avec des reculs du trait de côte qui était à 40-50 mètres sur certains territoires arrivaient cet hiver, j'annonce tout de suite que nous, on saura désigner les responsables. On ne peut pas demander aux élus, faites le nécessaire, aux élus d'ailleurs et à tous les acteurs du littoral, faites le nécessaire, organisez-vous, anticipez, le faire ce boulot-là depuis 10 ans, et aujourd'hui se retourner vers eux en disant vous n'avez rien fait. Moi, je considère aujourd'hui que le temps n'est plus à essayer de faire à nouveau des études, à nous renvoyer à des appels à projets, le temps, il est à l'action.
Le temps, il est à l'action. Alexandre Magnan, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IDRI. On est un peu surpris d'entendre ce que dit Renaud Lagrave. Il dit, voilà, nous, on est au point, on a travaillé, on a des moyens. Et en même temps, personne ne nous écoute et on n'arrive pas à bouger. Quand je lui posais la question de la catastrophe, et quand on regarde à l'échelle du monde, on se dit, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut des catastrophes pour que les gens comprennent que vraiment, on n'est pas face juste à des fantasmes scientifiques. On est face à des catastrophes réelles aujourd'hui.
La catastrophe, elle a bien sûr un tas de côtés dramatiques. Elle a potentiellement l'effet vertueux, effectivement, de réveiller les consciences et de faire bouger les politiques. C'est très difficile à faire. Et toute cette question de l'anticipation du changement climatique, elle remet en cause tous les choix politiques et même économiques et sociaux aujourd'hui. Des choix qui sont très très difficiles à faire. On parlait de la relocalisation tout à l'heure, des biens, des personnes, des activités sur le littoral. C'est très compliqué, c'est pas très vendable politiquement pour nos élus aujourd'hui. Et pourtant, c'est socialement et à l'échelle intergénérationnelle ce dont on a besoin. Le changement climatique nous confronte très clairement à des choix très difficiles de société et... Si le changement climatique pouvait parler, il nous dirait il faut vous transformer, il faut changer votre manière, c'est ce que disait Luc Abadie sur la question agricole, il faut changer votre manière de penser l'espace, de vous approprier l'espace, de gérer les ressources. Et ça demande des bouleversements assez conséquents. Et je pense que c'est ce défi-là qu'on n'arrive pas encore à relever et qui fait que je ne parlerai pas de déni des autorités publiques, mais il y a un cap à franchir qu'on n'a pas franchi pour l'instant, c'est vrai. Et du coup, il y a des tensions, comme on vient de l'entendre, à l'échelle des territoires.
Christophe Buffet, avec l'Agence française de développement et votre programme Adaptaction, vous essayez justement d'aller voir les États, notamment africains, en leur disant bah, « Écoutez, voilà, il faut intégrer cette adaptation à tous les stades de vos décisions. Est-ce que vous y arrivez ?»
Alors, tout à fait, on intervient auprès de 15 pays et organisations régionales en Afrique et parmi les petits États insulaires, à leur demande également. Donc on ne vient pas en fait, leur donner des leçons non plus, c'est bien en partenariat avec eux qu'on essaie de conduire ce programme. L'intérêt qu'on a en fait, dans ce programme Adaptaction, c'est d'avoir trois axes qui essaient d'articuler les différentes choses qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire un axe sur la gouvernance climat, avec des instruments de pilotage de la mise en œuvre des engagements de l'accord de Paris sur le volet adaptation que ces pays ont pris. Un deuxième axe sur les politiques publiques, dont j'ai parlé précédemment avec l'exemple du Niger, pour intégrer l'adaptation dans les politiques publiques sectorielles, que ce soit l'agriculture, l'eau, etc. Et un troisième axe qui a pour vocation de faire des études de vulnérabilité ou des études de faisabilité pour arriver au niveau projet. Donc on a cette articulation de la gouvernance au projet avec l'appel à la finance climat internationale qui est extrêmement intéressante.
Et Renaud Lagrave de la région Nouvelle-Aquitaine disait « Nous, on n'a pas de problème d'argent, quelque part, le financement est là. J'imagine que ce n'est pas du tout la même donne dans les pays avec lesquels vous travaillez. »
Si j'ai bien compris, en fait, la problématique de Renaud Lagrave, c'était aussi une problématique de loi qui l'empêchait, en fait, d'agir. Et du coup, c'est là aussi où, de manière similaire, on pourrait avoir le cas dans d'autres pays qu'on accompagne et pour lequel, si on nous signalait que ce problème existe et si les autorités publiques ont envie de travailler là-dessus, on pourrait produire de l'expertise pour les accompagner à modifier ces lois qu'eux-mêmes voteront plus tard.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question des moyens financiers.
Les moyens financiers, en fait...
Ça coûte très cher de délocaliser, d'accompagner des gens, de modifier des infrastructures...
Tout à fait. Alors, d'autant plus que le changement climatique est un multiplicateur de menaces pour ces pays qui ont souvent des problèmes de développement de manière plus générale. Il se trouve que du fait des négociations dans les COP, il y a un certain volume de financement dédié à l'adaptation qui a été promis par les pays en développement, qui essaie d'accompagner ces pays dits du Sud. Donc il y a des financements disponibles et tout l'enjeu de ce programme Adaptaction, c'est bien de leur donner l'accès à cette finance climat internationale, dont l'AFD fait partie, dont le Fonds vert pour le climat fait partie.
Hervé Le Treut, vous, ça fait des années que vous modélisez les conséquences du dérèglement climatique, vous voyez les choses qui s'accroissent petit à petit. Je disais tout à l'heure, il faut attendre des catastrophes pour nous réveiller, pour réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a une vraie difficulté sur le voir pour croire. On est dans un monde où finalement tous ces enjeux-là ont été mal perçus parce que on ne croit pas vraiment, pour beaucoup de gens, au rôle d'anticipation de la science. C'est quelque chose qui finalement échappe à ce que une partie de la population est capable de se représenter parce que ça rentre très peu dans nos programmes d'enseignement, ça rentre très peu dans l'éducation que l'on donne. Il y a un vrai déficit. L'autre problème, c'est aussi le fait qu'on a un droit environnemental. Ce droit, il se construit en s'ajoutant petit bout par petit bout sur des types de droits, le droit du littoral, le droit. Enfin, il y a une complexité du droit qui est absolument considérable, et on n'a pas reconstruit quelque chose qui puisse se mettre en œuvre facilement. Donc, il y a des paralysies qui tiennent aussi à simplement au fait que dans ce qui doit bouger, il y a tout l'appareil législatif qui ne sera pas adapté aux situations à venir. C'est pour ça que quand on parle d'adaptation au changement climatique, on parle d'une chose qui est une transformation assez lourde du domaine dans lequel on vit et qui passe par des enjeux extrêmement différents et qu'il va falloir lier les uns aux autres. Donc on est vraiment dans des situations qui réclament prendre des initiatives à tous les niveaux. On ne peut pas rester dans la situation actuelle.
Alors pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous projeter, hein, finalement, à anticiper ? Je vous propose d'écouter les propos de Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie de l'université Paris-Descartes.
C'est vraiment un des modes potentiellement d'adaptation. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que refuser la fin, refuser la possibilité de la catastrophe, fait partie de nos modes adaptatifs. C'est la question de se dire, est-ce que je suis vivant pour aujourd'hui ? La réponse est oui, donc j'ai des projets pour demain. Et à partir de ce moment-là, c'est rebondir en se disant, nous y serons encore demain. Et donc du coup, on peut prévoir l'après-demain, on peut prévoir la suite. Et se dire qu'on a toujours été capable de s'adapter, puisque nous sommes vivants aujourd'hui en tant qu'espèce et en tant qu'individu, nous, par symétrie, nous donne simplement les capacités à nous dire « je me projette dans le futur et donc nous y serons encore dans 500 ans ». À la vitesse à laquelle ça se passe, ces changements, et à la vitesse à laquelle on voit, par exemple, disparaître un certain nombre d'espèces, toute la question de la biodiversité végétale et animale est confondue dans ce problème de l'adaptation au sens très général au changement climatique, mais aussi à l'espèce humaine, eh bien on se rend compte qu'on pourrait rentrer dans cette sixième extinction d'ici 2 ou 5 siècles. Voilà la marge d'incertitude à la vitesse à laquelle se font actuellement ces extinctions. C'est-à-dire que d'ici 200 ou 500 ans, on se retrouvera avec 75% des espèces végétales ou animales qui auraient disparu comme lors des grandes extinctions du Dévonien, du Crétacé et de ces... Donc cet ordre de grandeur à nouveau est tellement massif qu'on ne peut pas le concevoir individuellement. Et donc on le refuse et on se dit non, ça, sur l'étalage de nos gains, de tout ce qui ont été ces impacts positifs dont on parlait au début, à ce moment-là, ça va continuer quand même, hein.
Oui, ça va continuer quand même, on aimerait bien, mais Luc Abadie, vous écoutiez attentivement ce que disait Jean-François Toussaint. Non, ça ne va pas continuer en fait, parce que tout se dégrade, la biodiversité, le climat, et il va bien falloir qu'on apprenne justement à accepter cette situation.
Oui, alors je confirme qu'effectivement sur la biodiversité, les indicateurs ne sont pas bons, puisqu'on a partout, y compris... dans les pays européens, des données maintenant qui sont suivies depuis 20, 30 ans ou plus que ça, qui montrent un phénomène général qui est la diminution très rapide des effectifs des différentes espèces. Dans le cas de la France, il n'y a pas de disparition d'espèces massivement et récemment, mais par contre, beaucoup, beaucoup d'espèces sont en voie de diminution en termes d'effectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur la voie de l'extinction au moins locale.
80% des insectes ?
Oui, enfin, c'est les chiffres qu'on donne. Par exemple, sur les oiseaux, en France, vous avez à peu près 1% d'effectifs en moins tous les ans depuis une trentaine d'années. On a des chiffres avec moins de recul, donc à prendre peut-être avec plus de précautions sur les chauves-souris qui sont encore plus importants que ça. Donc effectivement, on est sur des réductions d'effectifs, mais qui sont normales, hein, vu l'extension des activités humaines. Mais je crois justement que le grand changement qu'il y a à faire, la condition de la transition, c'est d'être capable, premièrement, de regarder la vérité en face, parce qu'on a eu tendance, effectivement, à pas trop faire, hein, faut pas affoler les gens, etc., etc. Donc là, je pense qu'il faut faire confiance aux citoyens, faire confiance à tout le monde, c'est-à-dire se mettre en face de la situation, appréhender la situation. Et ensuite, là, il y a peut-être un changement à faire, effectivement, qui est plus facile à dire qu'à faire, mais qui est d'expliquer qu'en fait, cette situation extrêmement tendue est aussi une opportunité absolument unique pour remettre en cause un tas de choses. Il n'y a pas que le climat et la biodiversité qui ne vont pas, on pourrait citer beaucoup d'autres dimensions. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire notamment à l'université avec les étudiants qui sont d'ailleurs très intéressés pour la plupart par ces questions, de montrer que ça peut être pris à bras le corps et c'est l'occasion de rentrer dans une nouvelle période. Et y compris un changement de valeur, parce que ces questions environnementales, finalement, c'est l'expression de valeurs qui sont peut-être plus, qui collent peut-être plus avec la réalité physique du monde dans laquelle on vit. Mais des changements de valeurs assez forts, il y en a eu dans l'histoire, ça s'est appelé la Renaissance, par exemple, à une époque. En fait, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Cette grande catastrophe, parce que moi, je pense qu'on est dans une catastrophe, est gérable encore pour l'instant, et peut être l'occasion de vraiment renouveler des choses en profondeur.
Alors
et
comme quoi, par exemple, quand vous dites des nouvelles valeurs, vous pensez à quoi ?
Ben, par exemple, le fait qu'effectivement, on est une espèce qui est dans un réseau vivant, par exemple, et que si on veut assurer notre survie dans ce réseau, eh bien, il faut laisser de la place à ce réseau vivant. On parle beaucoup dans les milieux biodiversité aujourd'hui de coévolution entre l'humanité et les non-humains, c'est quelque chose, c'est un concept qui est développé. Alors, derrière, il y a effectivement une question de valeur, donc là, c'est une question d'éthique personnelle, à la limite, mais on a aussi tout simplement la sanction d'une réalité, c'est qu'on s'aperçoit tous les jours qu'on est connecté à un tas de phénomènes vivants dont on n'a même pas conscience. C'est le concept de service écosystémique qui a été popularisé par le Millennium Ecosystem Assessment, qui est également repris par l'IPBES. Qu'est-ce que ça veut dire, service écosystémique ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent au loin, que vous ne percevez pas et dont vous êtes complètement dépendant. C'est ça qui est dit derrière ce concept de service écosystémique. C'est assez révolutionnaire.
Pour avoir un air respirable, une eau buvable,
tout simplement.
Des arbres pollinisés par les abeilles pour avoir des fruits, ce genre de choses.
C'est ça. Donc ça veut dire, alors c'est pas si simple que ça, c'est de passer d'une position, d'un statut à part, voire dominant, à simplement une position plus humble. Oui, on fait partie d'un système, voilà, c'est un mot qu'avait employé tout à fait tout à l'heure Hervé. Nous sommes dans un système.
Qu'est-ce que tu fais ?
Mais pour compléter ce que disait Hervé Le Treut et ce que vous venez de dire, parmi la centaine d'appuis que l'on conduit dans AdaptAction, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne le Sénégal. On va prochainement lancer une étude pour étudier la place de l'adaptation dans le système éducatif et la formation professionnelle au Sénégal. On devrait pouvoir produire un tableau général pour analyser cette place ou cette absence éventuelle de l'adaptation et faire des propositions pour améliorer cette appréhension de l'adaptation du système éducatif, de la formation professionnelle et éventuellement de l'université. Et je pense qu'effectivement, ça rejoint les questions de générations futures à former, même si effectivement, il ne faut pas attendre non plus ces générations futures, il faut bien agir avant qu'elles arrivent au pouvoir.
Ça veut dire quoi ? Créer des chercheurs, enfin pouvoir former des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur cette thématique de l'adaptation, notamment au Sénégal.
C'est tout à fait ancrer l'expertise locale, mais au-delà des chercheurs, ça peut être aussi simplement un petit agriculteur qui est capable de mobiliser les outils à sa disposition, les nouvelles techniques, les nouvelles semences qui peuvent faire face aux variabilités accrues du changement climatique.
Alexandre Magnan, sur cette difficulté qu'on a à se projeter, à accepter, à changer, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous réagissez ?
J'aime bien ce que dit Lucas Badi, cette notion de redécouvrir qu'on appartient à un réseau environnemental au sens assez large, y compris cette acceptation des aléas naturels comme les tempêtes, etc. On a construit nos sociétés modernes, et c'est manifeste sur le littoral, sur cette idée qu'on était plus puissant, qu'on devenait plus puissant que la nature et qu'on pouvait la contrôler. Et par exemple, qu'on pouvait arrêter la mer. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, le changement climatique dit la surpuissance, c'est moi, c'est la nature, et vous devez revenir à votre place, qui est une place tout à fait juste avec des technologies, etc. Mais il y a un changement de mentalité qui doit opérer, et tant qu'il n'a pas opéré, l'anticipation sur un long terme, et nous on parle de 50, 60, 100 ans, n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas fait cette révolution culturelle et intellectuelle, on est encore dans nos vieux schémas illustrés par nos processus législatifs, etc. etc.
Mais Hervé Le Trut, ça fait des dizaines d'années que vous modélisez ces conséquences du dérèglement climatique. Vous allez dans tous les salons de nombreuses républiques pour alerter les décideurs en disant ça va mal et ça ne va pas s'arranger. Et ben voilà, on en est où on en est.
Oui, alors on a fait un travail pour la région Nouvelle-Aquitaine, donc le rapport à Climaterra. Deux surprises qu'on a eues. La première, c'est qu'il y a un savoir énorme qui est accumulé un peu en silo dans tous les domaines en fait de la connaissance. Il y a eu des chercheurs, il y a des gens qui ont fait des rapports, il y a des gens. Et puis, par contre, quand on regarde comment ça a été effectivement utilisé dans les lieux de décision régionaux même, en l'occurrence, on s'est occupé que des lieux de décision régionaux, c'est assez peu. C'est-à-dire que... Et on sent qu'il y a quand même aussi une difficulté de fond, c'est comment traduire notre langage de scientifique, nos expériences de scientifique, dans quelque chose qui est utilisable par les élus, par les... qui puisse être compris, qui puisse être... Et là, il y a des failles qui sont des failles dans le savoir, dans la transmission du savoir, dans la manière de concevoir une interdisciplinarité. On est sur des problèmes qui sont tous interdisciplinaires, qui sont tous en train de lier les problèmes de biodiversité, les problèmes de on parle de, enfin, très facilement de solutions qui sont pas prouvées dans leur capacité de se connecter les unes aux autres. On dit, on va faire des voitures électriques, comment est-ce qu'on fabrique l'électricité? Donc il y a toute une série de choses qu'on a du mal à connecter les unes aux autres et qui font que la décision ne s'appuie pas facilement sur la science non plus. Donc je crois qu'il y a un travail, il faut être conscient que les changements touchent tout le monde, y compris nous autres scientifiques. Je pense qu'on a besoin de travailler beaucoup mieux le segment et c'est une qui va de notre science au territoire déjà. Au territoire, parce que le territoire, c'est le premier lieu où on peut essayer de regarder comment fonctionne ce système très compliqué, où rentrent aussi des valeurs, je crois que ça a été prononcé, c'est-à-dire comment est-ce que sur ce territoire-là, on prend des décisions aussi en fonction de droits de l'homme, en fonction de choses qui ne sont pas directement celles de la science. Donc je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur, et qui est très concrète, parce que souvent on peut avoir ces discussions là dans les salons, on discute et puis on refait le monde, mais je crois qu'aujourd'hui on est dans une phase où ces décisions-là sont des choses concrètes, et l'enseignement, la formation qui va derrière ça est aussi quelque chose de très concret qu'on doit mettre en route très, très rapidement à tous les niveaux. Alors Luc fait partie des leaders d'un groupe qui doit parler, enfin qui doit faire un projet sur l'éducation dans le supérieur, sur ces thèmes-là, dans l'enseignement supérieur. Mais je crois que c'est des éléments très très importants. Il faut se dire que si on a raté les choses aussi pendant une durée aussi longue, c'est qu'il y a des raisons. Il faut mettre le doigt sur ces raisons-là.
Alexandre Magnon.
Oui, juste pour compléter, je pense que on a tous fait un bon boulot jusqu'à maintenant pour mettre la question du changement climatique sur la table.
Ça fait du bien.
Non, mais effectivement, sur un mode plutôt d'alerte et de catastrophe, ce qui a permis d'en arriver là aujourd'hui. Effectivement, on doit arriver à évoluer collectivement vers un autre discours qui se rapproche de ce que vous disiez, Luc Abadi. Il faut donner envie du futur. Et nos jeunes générations en ont vraiment besoin, d'autant plus que la crise coronavirus les met dans des états psychologiques difficiles sur le futur. En fait, il y a un futur et il va être ce qu'on en fait. Et possiblement, il est un vrai projet de civilisation qui pourrait permettre de traiter ensemble des questions très difficiles qui ne vont pas s'éteindre d'elles-mêmes, la pauvreté, etc. etc. Donc il y a dans l'effort de communication et d'échange collectif, il y a cette idée de passer vers quelque chose. On a envie de ce futur. Il fait peur, bien sûr, mais comme tous les défis.
Abadi, vous êtes d'accord avec ça?
Je suis complètement d'accord avec ça. Et juste pour en rajouter un petit peu sur une note optimiste, moi je trouve quand même qu'au moins dans les têtes, depuis 3-4 ans, il y a des changements absolument drastiques par rapport à la perception des enjeux du changement climatique et plus récemment, mais fortement aussi, sur les enjeux de la biodiversité. Et je pense que Quand il y a eu la COP21, ça a été bien médiatisé. On avait commencé à avancer lors du Grenelle de l'environnement. Je pense que les résultats de l'IPBES également ont été bien médiatisés. Je pense que la démission de Hulot, finalement, a fait du bien aussi. Ça a créé un choc. Et puis le Covid aussi, finalement, participe à ça. C'est-à-dire qu'on se pose des questions à une échelle qui nous dépasse en tant qu'individu. Et on a fait preuve de résilience, finalement, sur le Covid. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se sont passées dans les têtes, hein, assez rapidement, finalement, sur 3-4 ans. Je m'intéresse depuis longtemps à ces questions environnementales. J'ai eu l'impression que pendant une éternité, il ne se passait rien. Dans les têtes, ça a changé. On commence à avoir des changements dans les pratiques, dans les décisions politiques, etc. Mais clairement, ça ne va vraiment pas assez vite. Et je pense qu'un frein, c'est la peur de perdre, et c'est la question, en fait, qui est centrale, qu'on a déjà évoquée plus ou moins, de la solidarité. Et je pense que le programme, il était bien affiché dans le titre précédent du ministère de l'Environnement, qui s'appelait « Ministère de la Transition écologique et solidaire ». Ça, c'était vraiment bien résumé, finalement, les enjeux du moment, quoi, en quelque sorte. Je regrette que le mot « solidaire » ait disparu dans le titre actuel du ministère.
Eh bien, ce sera dit et répété. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à l'enregistrement de C'est pas du vent dans ce studio installé, salle Marie Curie, dans les locaux de l'Université de la Sorbonne, où s'est déroulé hier le colloque du Forum international de la météo et du climat. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos des conférences de ce colloque sur Internet. Merci à Christian Vanier pour son aide logistique et à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Merci à vous, évidemment, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.